Paul Journet est éditorialiste à La Presse. Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, vous deux.
Bonjour.
Paul, on va y aller avec toi parce qu'on vient de sortir d'une discussion sur la circulation, les grands travaux sur Métropolitaine qui nous attendent. Et évidemment, juste en bordure de la Métropolitaine, il y a le fameux projet Royal Mount qui s'en vient, là.
Écoute, c'est un immense projet, Bernard. C'est plus de 2 milliards de dollars et c'est de l'argent entièrement privé. Pour le situer, c'est proche de l'intersection Descaries-Autoroute 40, proche aussi d'où était l'hippodrome Blue Bonnet. Donc, c'est des terrains industriels qui équivalent à 40 terrains de football. Le projet est à la fois résidentiel et commercial. Tu pourras avoir 5 hôtels, des tours de bureaux, 200 commerces, cinéma, c'est tout ça qui est projeté. Puis aussi jusqu'à 6000 appartements. Le premier réflexe, j'imagine, de bien des gens qui nous écoutent, c'est ben, si c'est de l'argent privé, pourquoi est-ce qu'on serait contre? Mm-hmm. C'est bon pour l'économie. Or, il y a des consultations en cours, des gens qui fouillent ça, puis ils disent « Attention, là, c'est pas de la création de richesse, ça risque d'être plus du déplacement, parce qu'on va pas créer de nouveaux consommateurs. Les gens, au lieu d'aller acheter ailleurs, ils iraient là-bas, et ce déplacement serait pas neutre, parce qu'il pourrait occasionner des problèmes de congestion. T'en as parlé sur la métropolitaine un peu plus loin, vers l'est. Ben, on sait que ça bouche un peu partout à Montréal. T'as donné un chiffre, là. En ce moment, il y aurait 370 000 déplacements. Avec ce projet-là, on projette que ça augmenterait jusqu'à 440. Ça en fait pas mal des voitures dans un endroit qui ressemble déjà à un gros stationnement.
Et moi, je vais vous dire, là, je suis pas de Montréal, donc j'ai peu à dire sur le sujet, mais l'intersection Descaries-Métropolitaine, c'est toujours jamais.
Exact.
Fait que si tu mets un gros centre d'achat là, ça va être pire. Puis en plus des réfections, écoute, je ne sais pas, moi, à prime abord, quand j'ai vu ce projet-là, j'étais pas très enthousiaste à l'idée, mais avec mes yeux, évidemment, d'un gars qui habite à l'extérieur de Montréal.
Mais Paul, tout ce que je lis et tout ce que j'entends sur ce projet-là, c'est négatif. Je sais pas, à part le promoteur puis la ville de Mont-Royal, là, qui vont évidemment encaisser des beaux revenus de taxes, qui est pour ce projet-là?
Tous les gens qui ont de l'argent à faire avec ce projet-là. Moi, c'est ce que je comprends.
Il y a l'intérêt particulier, puis il y a l'intérêt public aussi, l'intérêt collectif. Si déjà, avec les infrastructures qu'on a, on a de la misère à se déplacer dans ce coin-là de la ville, il me semble qu'on est comme tous un petit peu concernés par ce fameux projet-là. Et si l'intérêt collectif, notamment l'intérêt des bons automobilistes, va être très, très nettement desservi par le projet, il me semble que quelqu'un devrait se saisir de ça puis décider peut-être, je ne sais pas si on a les moyens, de dire, écoutez, là, le projet, non, il n'ira pas de l'avant parce qu'il y a plus de désavantages que d'avantages.
Ben, il y a des gens qui pensent ça. Puis d'ailleurs, avant de répondre à ta question, j'ajoute un autre argument contre le projet, celui des intérêts des yeux des Montréalais, c'est-à-dire la beauté. L'urbanisme, il faut penser aussi à, évidemment, la cohérence dans l'aménagement, mais on peut souhaiter que Montréal soit une ville belle. Et est-ce que la chose la plus jolie puis la plus cohérente, c'est un immense centre d'achat avec des tours à bureaux qui poussent à côté d'un bouchon de circulation?
Okay, mais, Paul,
mais je reviens à ce que tu me dis.
Oui. Qui peut intervenir?
C'est là tout le cœur du problème. En ce moment, tu as deux volets, le volet résidentiel et le volet commercial. La personne qui décide, c'est Ville-Mont-Royal. Puis c'est là tout le problème. Ville-Mont-Royal, c'est moins de 1% de la population de l'agglomération de Montréal, mais c'est eux qui ont le droit de regard sur le projet. C'est leur projet. Puis ça te montre comment il y a un problème d'administration à Montréal, de partage des responsabilités. C'est une infime minorité qui va pouvoir décider là-dessus.
Alors, il faudrait que ce soit Québec qui intervienne?
Oui, c'est ça. Le gouvernement provincial pourrait intervenir,
imposer
un veto.
Ils ont des recours. Là, il y a une consultation qui est en cours. Raphaël Fischler, doyen de la faculté d'urbanisme, disait, écoutez, peut-être que le gouvernement du Québec pourrait intervenir. Voici comment. Tu as besoin d'infrastructures autour de ça. Il va falloir jouer avec les routes. Bien, si le gouvernement dit, nous, on touche à absolument rien, c'est au promoteur de défrayer tous les coûts. Ça équivaut pas à un blocage, mais disons qu'on met du sable dans l'engrenage. Ça, c'est pour la responsabilité de Québec. Il y a aussi celle de Montréal. Et là, ce qui amène la question, la mairesse Plante, est-ce qu'il est pour ou est contre? La Chambre de commerce dit « Attention, on a l'impression, on a des signaux qu'il y a une volonté de bloquer ». Or, puis ça répond à ta question tantôt aussi, y a-t-il du monde qui sont pour? Ben la Chambre de commerce, elle est pour. Juste parce que quand il y a des investissements privés, ben oui, là, par réflexe, oui, là, c'est, oui. C'est un lobby pour,
okay, ben
pour
écoute,
le commerce. Mais donc, Valérie Plante, es-tu pour ou est contre? Elle semble être contre, mais elle le dit pas et je la comprends. C'est parce qu'il y a une consultation qui est en cours.
Oui,
si elle s'était déjà campée, ben, on serait les premiers à dire ben, attention, à quoi ça sert une consultation si la mairesse a déjà choisi son camp?
Est-ce qu'elle va participer à la consultation? Parce que la consultation, c'est une consultation de Villemont-Royal?
C'est une consultation. Écoute, tu as plein de gens, comme j'ai nommé l'urbaniste tantôt, qui témoignaient. Tu as des groupes écolos aussi qui
non,
ont
mais
participé.
Qui la tient?
Toutes les parties prenantes.
Qui la tient?
J'ai oublié le nom exact de l'instance qui la tient. Mais tu sais, au municipal, là, ça s'emboîte les responsabilités les unes par-dessus les autres. Puis c'est un peu ça le problème. C'est ça que je te disais. Ville-Mont-Royal, moins de 1% de la population de l'agglomération, mais c'est eux qui tiennent les rênes du projet.
Très bien. Carl, on passe à un autre sujet. Deux ministres qui ont rencontré la famille d'Édith Blais, là, cette Québécoise qui a été kidnappée. On ne sait pas trop ce qui est advenu d'elle. Là, on n'a pas vraiment d'informations. C'est Mme Freeland et Mme Bibeau, hein, c'est ça?
Oui, donc la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et celle du Développement international, Marie-Claude Bibeau. Écoute, c'est une situation difficile pour la famille, donc le gouvernement sont allés les rencontrer ce matin. Et à la sortie de cette rencontre-là, ben, Marie-Claude Bibeau avait ceci à dire, on peut l'écouter.
Je vous dirais que ça a été une conversation qui était très entre mamans. On a beaucoup parlé d'Édith, et ce sont deux femmes extraordinaires qui sont très fortes.
Oui, ils vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup de courage, évidemment. Il y a Mme Freeland également, hein, qui était là. Tu veux un extrait, je pense.
Mais j'ai fait un extrait de Freeland plus tôt cette semaine qui expliquait un peu ce que le gouvernement du Canada essayait de faire. Surtout, il y avait un autre Canadien, Kirk Woodman d'Halifax, qui a été enlevé et assassiné cette semaine au Burkina Faso. Donc, on peut écouter la ministre Freeland.
Les agences impliquées canadiennes sont très, très engagées dans cette situation. Et nous sommes aussi au contact avec les autorités en Burkina Faso.
Oui. Je vais te dire, le problème, en fait, c'est que, bon, le Burkina Faso, c'est un État qui est plus ou moins fonctionnel. Il faut la retrouver, mais comment la retrouver, là? C'est ça le cœur de l'affaire, là.
Au niveau politique, c'est très sensible. Tu veux gérer les attentes, mais rassurer les gens, surtout les familles. Donc, tu essaies de faire preuve d'empathie, mais tu peux pas dire que de pas s'inquiéter, puis on va la retrouver, parce qu'évidemment, au Burkina Faso, les choses, c'est loin d'être de bien aller. Écoute, il y a 5 avis aux voyageurs pour éviter les voyages, notamment pour tout le pays, tous les voyages non essentiels, et éviter tout voyage, tout simplement, la frontière avec le Mali, avec le Niger, avec le Bénin, avec le Togo, le parc national qui est au centre du pays. On dit aux gens de ne pas aller là. Et là, bon, on a une ambassade à Ouagadougou, mais, je veux dire, sur le terrain, c'est pas facile. Écoute, au pays, ici au Canada, là, des disparitions, des enlèvements, ça arrive régulièrement, et avec toutes les ressources, on est sur place, on a la police, on a... Tu sais, on a de la difficulté à trouver des gens, alors eux autres sont dans la jungle, là. Fait que, écoute, c'est pas évident pour le gouvernement de gérer ça. On a un ambassadeur, puis ça me rassure un peu. Le type s'appelle Edmond Vega, c'est un diplomate de carrière, donc pas un politicien. Il a beaucoup d'expérience là-bas, en Éthiopie, au Mozambique, notamment. Donc,
il travaille là-dessus, là.
Il travaille là-dessus, le gouvernement fait tout ce qu'il peut, mais
c'est
pas facile.
Très bien. On s'arrête. Au retour, tu vas nous parler, Paul, de ce rapport sur l'emploi et l'immigration. Il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles là-dedans dans un instant. De retour avec Paul et Carl. Donc, Paul, des bonnes et des moins bonnes nouvelles sur l'emploi et l'immigration.
Oui, on va commencer avec les mauvaises parce que ça va être plus facile à expliquer, tu vas voir. Donc, c'est une étude publiée hier du Comité consultatif des personnes immigrantes. C'est un groupe auquel prend part autant des syndicats, des employeurs, des chercheurs, donc pas mal de monde qui ont des intérêts variés. La mauvaise nouvelle, c'est que le taux de chômage est encore très élevé chez les personnes qui ne sont pas nées au Québec par rapport à celui des personnes nés au Québec. Février 2018, 5,1% le taux de chômage des gens nés au Québec, alors qu'il était de 14% chez ceux qui sont pas nés au Québec et qui étaient arrivés il y a moins de 5 ans. Ça, c'est la mauvaise nouvelle.
Oui.
La bonne, c'est que plus le temps avance, plus les gens qui ne sont pas nés au Québec finissent par se trouver un emploi. 10 ans après leur arrivée, l'écart était presque résorbé. Donc, les gens qui sont pas nés au Québec, mais qui sont arrivés il y a plus de 10 ans, leur taux de chômage, 6,4%. Donc, on s'en approche.
C'est une excellente nouvelle. Il y a plus de positifs que de négatifs là-dedans, Paul.
Oui, bon, on peut toujours trouver un peu de tout. Hein, ça dépend où on regarde.
Mais sérieux, au-delà de si
c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, la conclusion qu'on devrait en tirer, c'est que les problèmes d'emploi des nouveaux arrivants sont pas seulement liés à des formes de discrimination directe qui sont néanmoins réelles. Ça a été rapporté, par exemple, les CV à l'aveugle quand il y a quelqu'un qui change son nom pour avoir un nom de Québécois de souche, il y a plus de chances d'être engagé. Mais il y a d'autres problèmes qu'on connaît, mais on n'en parle pas assez, qui sont liés à l'intégration. C'est la reconnaissance des diplômes, puis c'est pas juste le problème des ordres professionnels, la francisation, etc. Puis je fais le lien avec la pénurie de main-d'œuvre. On en parle beaucoup, oui, puis on dit qu'il faut s'assurer de maintenir les seuils. En tout cas, c'est un discours, évidemment, c'est pas ce que la CAQ dit, mais ce que d'autres personnes disent, qu'il faut maintenir les seuils d'immigration pour combler les besoins en main-d'œuvre. Mais une autre façon d'agir, peu importe le nombre d'immigrants qu'on accueille, c'est de mieux les intégrer, de reconnaître les diplômes, aller sur le détail, sur le concret, sur le terrain.
On s'entend là-dessus. Carl, parlons un petit peu de cet acte d'humilité. Je pense qu'on peut dire ça.
De la part de
Yves-François Blanchet, le nouveau chef du Bloc québécois, qui a donné une entrevue au Devoir dans laquelle il dit « Il faut que je casse mon image de goon ».
Écoute, c'est le goon de Pauline Marois, ce gars-là. Puis apparemment, cette image-là colle. Écoute, il y a cette étiquette-là, évidemment, depuis qu'il a été whip du PQ sous Pauline Marois.
Il n'a pas été whip bien longtemps. François a été whip, je pense, pendant 3 mois. Ouais. Je te dirais que son image de goon avait commencé du temps où le PQ était dans l'opposition. Parce que c'est lui, par moment, qui sortait pour ramener dans le rang les brebis égarées puis qui leur donnait 2-3 taloches derrière la tête.
Mais quand tu dis brebis égarées, écoute Bernard, t'es gentil, hein. Tu te souviens parce que de la crise au PQ?
C'est parce que ça m'étonne des taloches, lui, Bernard.
C'est ça. C'est ça. C'est comme je pense qu'il t'a frappé trop fort derrière la tête. T'as les effets secondaires d'une commotion cérébrale. Mais je te rafraîchis la mémoire, Bernard. C'était l'époque où Madame Marois avait beaucoup de couteaux dans le dos, tellement qu'on voyait plus de couteaux que de peau presque, puis les portes claquaient sans arrêt au PQ. C'est l'époque où son leadership était menacé. On prêtait des intentions réelles, là, cela dit, à Gilles Duceppe. Puis je me souviens, moi, que Yves-François Blanchet est intervenu, puis il disait les choses noires sur blanc quand quelqu'un critiquait la gouvernance souverainiste. Il disait non, c'est pas quelqu'un qui critique la gouvernance souverainiste, c'est quelqu'un qui essaie d'aider Gilles Duceppe à être chef. Ça avait le mérite d'être clair. Il avait raison. Donc, il y a un contexte au personnage de Goon. Il fallait que quelqu'un joue ce rôle-là. Puis, il avait raison. Je comprends pourquoi il l'a fait. Comme Carl le soulignait, il a été whip. Puis ensuite, il est devenu ministre de l'Environnement. Puis déjà, son attitude changeait quand il était ministre de l'Environnement. Parce que là, il était plus conciliateur entre les demandes des écolos puis les projets du cabinet de Mme Marois qui étaient pas tout à fait compatibles.
Mais ce que je trouve intéressant dans cette entrevue à cœur ouvert, c'est qu'il dit aussi, il y a beaucoup de photos de moi en Monsieur Baboune.
Ben oui.
Qui traîne dans les archives.
Ben oui. Alors, la mine donc, patibulaire.
Oui, c'est ça.
Écoute, alors, c'est un problème. C'est un problème parce que c'est très difficile que les médias les utilisent pas dans un contexte ou dans un autre. Écoute, je vais te raconter. À l'époque où je travaillais pour Thomas Mulcair, il y avait une photo de lui qui avait été prise dans un point de presse où il faisait un point. Il avait les yeux exorbités, le visage un peu rouge. Et là, à toutes les fois qu'il y avait un peu de mésentente, colère, quoi que ce soit, cette photo-là ressortait, était jouée par plusieurs médias. Et c'est très difficile de s'en débarrasser, surtout qu'il y a un contexte qui est bien avec le politicien. Ah oui, il est colérique, il est ci, il est ça. Les images font parler ces préjugés, ces préconceptions qu'on a de certains politiciens.
C'est sûr.
C'est pas quelqu'un de colérique tant que ça. Là. C'est quelqu'un, quand il a besoin de péter une colère calculée, il est très efficace, mais il est capable aussi d'avoir un ton très posé. Et son avantage, même si nous, qui commentons l'actualité à chaque jour, on le connaît un peu, je pense que la population le connaît pas tant. Fait qu'il y a la chance là, de, de préciser qui il est. Puis je pense qu'il lui reste du temps, mais il y a peut-être un côté que les Québécois connaissent moins de lui puis qu'ils vont apprendre à connaître. Là, moi, je pense qu'il y a, il va avoir le temps.
Oui, tu penses qu'il y a six mois, là, Paul. Ben,
je te dis pas qu'il va devenir nouveau premier ministre du Canada. C'est pas ça que je te dis.
Non.
Je te dis juste qu'il y a le temps de casser cette image parce que Goon, c'est vrai, ça correspond que à une facette de sa personnalité, mais il est autre chose. Là.
Mais il peut être drôle, Yves François. Ça prendrait une couple de photos de lui où il rit un peu. Là.
C'est ça le problème.
Parce qu'il y a souvent le visage assez austère. Les photos, quand c'est pas M. Baboun, c'est M. austère. C'est M. Je m'apprête à vous chicaner. Là.
Mais justement, l'entrevue dans Le Devoir, la photo qui accompagne l'article, tu as eu François Blanchet qui regarde dans le coin, puis tu te dis, il y en a spoté un dans le coin, puis il va aller le frapper.
Attention, un photographe, là, dans d'une seconde, il peut te prendre 30 différentes expressions faciales. Je sais, j'ai déjà été victime de ça.
Toi, t'as été victime de ça?
Oui, j'ai pas juste des amis dans la vie. Hein. Mais comme je dis, c'est pas qu'un goon, c'est pas quelqu'un qui est toujours colérique. Là. Moi, je pense qu'il est autre chose, puis il va sûrement pouvoir le montrer.
Mais il est conscient du problème, puis c'est déjà un premier pas.
Ah, ça, c'est vrai, ça. C'est vrai que reconnaître le problème, c'est la première étape pour trouver la solution aux 10 problèmes. Carl Bélanger, consultant stratège, merci, bonne fin de semaine.
Merci.
Paul Journet, éditorialiste à La Presse, toi aussi?
Ben merci.
Absolument. Dans un instant, tout de suite après la pause, on va parler de la crise du cochon.